Je suis heureuse de vous accueillir. Je vais juste dire deux mots du cadre du projet dans lequel cette série de rencontres s'insère. Donc, il s'agit d'un collectif qui s'appelle Université, qui a été fondé et qui est animé par plusieurs universitaires de Bordeaux essentiellement. Comme son nom l'indique avec le mot valise, il s'agit donc d'un projet qui vise à ouvrir l'université sur la cité, partant du constat que souvent les chercheurs sont un peu enclavés sur leur campus et qu'on a sans doute des débats et des questionnements à avoir ensemble sur des sujets qui notamment intéressent le plus grand nombre et qui croisent aussi les disciplines, ce qui était un peu le but de cette thématique et des thématiques qui poursuivront. Le collectif Université va donc chaque année proposer un thème différent. Le thème de cette année, c'est donc humanisme, transhumanisme, post-humaniste, avec une réflexion centrale autour de la définition et de devenir de l'humain à travers ces trois notions. C'est conçu en trois volets, trois rencontres. La première a eu lieu le 14 février et a mis en rapport cinq chercheurs de disciplines différentes. Ce soir, donc, on a un débat vraiment sur le point central du transhumanisme entre deux philosophes et donc comme invité principal, Jean-Michel Beignet, spécialiste de cette question. Je vais donc laisser la parole aux intervenants. Je donne la parole donc d'abord à nos deux modérateurs de la séance, donc Arthur Raffier, qui est à ma droite, et Chloé Damaret, qui sont des étudiants dans le master médiation des sciences de l'Université de Bordeaux-Montaigne et qui, par ailleurs, sont les vice-présidents d'une association très active en médiation des sciences qui s'appelle dealers de science et qui sont donc tout indiqués pour faire cette modération.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette rencontre. Nous tenons également à remercier Aurélia Gaillard, du coup, qui nous offre cette opportunité d'animer ce débat. Le collectif Université souhaite ouvrir effectivement des réflexions universitaires à la cité et c'est ainsi avec joie que nous nous retrouvons ici. Nous allons parler de sujets de science et de société qui nous questionnent toutes et tous. Les sciences et technologies sont en train de transformer l'humain. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée se structurant dans les années 90. Il s'intéresse à la transition de l'être humain, l'augmentation de ses possibilités, capacités physiques, intellectuelles, via l'utilisation des technologies. L'espèce humaine est en train de s'ouvrir à un monde du non-humain, à des individus mêlant biologie et technosciences. On va pouvoir peut-être parler clones, cyborgs, robots. Alors, comment vont pouvoir s'articuler l'être humain naturel et l'être humain augmenté ? Est-ce qu'une nouvelle définition de l'humain voit-elle le jour avec le développement du transhumanisme ?
Pour disséquer ce sujet, nous avons fait appel à Jean-Michel Beignet, philosophe et professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Il est auteur notamment du livre « Demain, les post-humains » et tout récemment co-auteur du livre « Les robots font-ils l'amour ? Le transhumanisme en 12 questions ». Avec lui, nous avons également Cédric Brun, philosophe et maître de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne. Il est spécialiste de la philosophie des sciences cognitives.
Bonsoir, merci d'être nombreux à venir nous écouter, peut-être répercuter les élucubrations des transhumanistes. Non, je crois, pour ma part, qu'il faut prendre au sérieux ce mouvement qui se développe aujourd'hui. Je suis ces gens-là depuis une dizaine d'années, et il y a 10 ans, lorsque j'ai publié « Demain, les post-humains », le thème était vraiment très, très marginal au sein de l'université. On trouvait extrêmement étrange qu'un professeur de philosophie perde son temps à jauger, commenter, gloser les prophéties qui se tiennent du côté de ces transhumanistes. Et puis, en à peine 5 ou 6 ans, on s'aperçoit que ces transhumanistes ont de plus en plus pignon sur rue, pignon sur revue. Ils font la une de nombreux magazines. Certains de leurs thèmes deviennent des thèmes presque communs. Maintenant, on parlera volontiers de l'humain augmenté dans les milieux médicaux, sans s'aviser de ce que peut avoir d'incongru l'expression. Et puis, on nous a tous annoncé que nous serions bientôt immortels, et l'immortalité est devenue là aussi presque un thème banal, dont on tourne un peu autour. Évidemment, de l'interprétation qu'on donne de cette immortalité. Mais les transhumanistes ont pénétré de plus en plus dans l'esprit des habitants des sociétés technologisées. Je dirais trois ou quatre choses, si vous voulez, à propos des transhumanistes. Je dirais d'abord que ces courants d'opinion qui sont nés dans les années, effectivement, 1990, essentiellement autour des grandes technopoles californiennes, la Silicon Valley, les gens qui se retrouvent dans ces courants ont des points communs. Et ces points communs peuvent peut-être permettre de mieux cerner l'ensemble du mouvement. Une première constante, c'est que tous ces gens sont convaincus que l'espèce humaine va réaliser toutes ses aspirations. Ses aspirations les plus anciennes vont être réalisées. Et ils sont convaincus que longtemps on a cru que c'était la politique ou la religion qui allait réaliser l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, ces gens disent non, ça n'est pas la politique, ça n'est pas la religion. Ce sont les sciences et les technologies qui vont nous s'octroyer ce dont nous rêvons depuis toujours. Donc on est dans un courant où on a déplacé, en quelque sorte, la focale des idéaux, on confie aux sciences et aux technologies le soin de répondre à nos désirs les plus profonds. Alors c'est pas complètement nouveau. Quand on lit Condorcet, au lendemain de la Révolution française, il écrit un texte important dans lequel il relate les différents épisodes du progrès de l'esprit humain, comme il le dit, et il dit bien, au lendemain de la Révolution française, il dit « c'est pas les sans-culottes qui ont fait la Révolution française, c'est Descartes. C'est Descartes, Galilée, ce sont les hommes de science du XVIIe siècle qui ont mis l'humanité sur les rails qui vont la conduire au bonheur, tout simplement. Donc c'est pas très très nouveau de dire que les sciences et les technologies vont réaliser les aspirations du genre humain. Cela étant, et ça on en discutera sans doute tout à l'heure, ce que je soutiendrai pour ma part, c'est que les transhumanistes ne sont pas des progressistes à la manière des idéologues du siècle des Lumières. Ce ne sont pas des progressistes, ce sont des adeptes de la rupture. Ce qu'ils veulent, c'est non pas favoriser les progrès scientifiques et techniques, mais ce qu'ils veulent, c'est produire une rupture. Et une rupture qu'ils appellent quelquefois la singularité. Le terme est très, très évocateur pour qui connaît un petit peu les mathématiques et la physique. En mathématiques et en physique, la singularité désigne toujours une rupture dans un continuum, et c'est ça qu'ils attendent. Donc, ne nous empressons pas de dire que ces transhumanistes sont dans la veine des idéaux des Lumières, ça n'est pas vrai. Ils tournent le dos même au progrès, ils sont pour la rupture. Alors, c'est le moment de dire une deuxième chose. De quoi héritent ces transhumanistes? Il y a au moins deux héritages. Il y en a un qui est assez immédiat, et il y en a un autre qui est beaucoup moins évident, que je m'efforce de travailler en ce moment, de manière un peu solitaire, et dont je vais simplement vous suggérer ce qu'il est. Les premiers héritiers qu'on peut repérer derrière ces transhumanistes, Je dirais que ce sont les gens qui ont fait la contre-culture américaine. Les mouvements hippies, par exemple. Cette contre-culture américaine, les plus vieux d'entre nous se souviennent, s'ils ont connu les mouvements 68, les beatniks, enfin, etc., tous ces... l'âge d'or des Ferlinghetti, des Kerouac, etc. Ces jeunes voulaient en finir avec le monde tel qu'il était, le monde de la consommation, le monde de la guerre du Vietnam, le monde de la bombe atomique. Ils voulaient en finir et ils en appelaient à une révolution, mais pas une révolution politique, une révolution spirituelle. L'un des grands apôtres de cette époque-là, c'est Timothy Leary, le chantre du LSD, celui qui disait que, bon, avec le LSD, on allait pouvoir changer son regard sur le monde. Et changer son regard sur le monde, c'était déjà opérer une révolution. Et ce Timothy Leary, lorsqu'il a découvert l'informatique, cette informatique qui commençait à se développer sous l'angle de l'informatique personnelle, le PC, il s'est dit, mais c'est pas la peine d'aller chercher le LSD. Avec l'informatique, on peut faire tout cela. On peut lutter contre le pouvoir central. On peut planer d'une façon ou d'une autre. On peut s'arracher, par conséquent, aux pesanteurs du monde contemporain et s'éclater. Et ces gens qui ont suivi ces courants de la contre-culture américaine sont les véritables fondateurs de la culture numérique qui est la nôtre aujourd'hui. Et les mouvements hippies se sont emparés de l'informatique pour organiser la communication entre les communautés, pour échanger des recettes, pour échanger du savoir. Ils ont inventé quelque chose qui ressemble au web dès cette époque-là. En tout cas, l'informatique, les technologies donc de cette époque-là, ont été associées à une révolution qui nous faisait tourner le dos au monde tel qu'il était pour aspirer à quelque chose d'autre. Je crois que c'est très important. Toute l'histoire de la culture du numérique, elle est fondée sur cette filiation-là. Ce qui s'est passé simplement, c'est que les grandes méga-machines, les GAFA, comme on dit aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Apple, ont détourné cette ligne d'inspiration pour faire avec la culture du numérique ce que vous savez et ce que nous vivons au quotidien. Donc, très important de bien voir, la révolution, elle n'est pas politique, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas dans la lignée de ce que notre monde nous propose, elle doit nous propulser ailleurs. La deuxième filiation, beaucoup plus ténébreuse, celle-là, que j'identifie, moi, derrière les mouvements transhumanistes, c'est la gnose. La gnose, vous êtes sans doute peu nombreux à savoir de quoi il retourne lorsqu'on parle de gnose, mais la gnose, ça désigne une hérésie des premiers siècles de la chrétienté. Une hérésie qui a eu la peau dure, qui est apparue, oui, dans les premiers siècles de la chrétienté. Nous avons trouvé déjà des anticipations dans la Haute Égypte, mais peu importe. La gnose, ça désigne une spiritualité qui réunissait des gens qui avaient en commun de considérer que Dieu avait raté la création. Que Dieu avait raté la création parce qu'au moment où il a créé le monde, eh bien, il a été assailli par des forces maléfiques, et ces forces maléfiques l'ont conduit à bâcler son travail. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état, et moi aussi, c'est-à-dire des êtres fragiles, des êtres souffrants, des êtres maladifs, des êtres vieillissants et des êtres mortels. Et les gens qui se reconnaissent dans la gnose ont tous en commun de considérer que, avec le savoir, la gnose, avec le savoir, on doit pouvoir rectifier le tir et parachever le travail que Dieu a laissé en plan. Et ces courants gnostiques ont été extrêmement insistants dans toute la culture occidentale. Et certains transhumanistes n'hésitent pas aujourd'hui à se réclamer de ces courants gnostiques en disant, ben voilà, avec les sciences et les techniques, on va rectifier donc tout ce qu'il y a de fragile, de vulnérable dans l'humanité, et on va réaliser une nature absolument parfaite. Donc il y a quelque chose de cette spiritualité-là chez les transhumanistes. Dernière chose peut-être, ou avant-dernière chose, mais je vais aller vite, ces courants transhumanistes, on ne peut pas ignorer qu'ils sont politiquement, économiquement marqués dans nos sociétés. Ce serait aberrant de le passer sous silence. Et j'ai évoqué tout à l'heure les GAFA, hein, pour dire que ces méga-machines se sont emparées de l'inspiration quasi métaphysique des adeptes premiers du numérique, hein, pour faire de tout cela un business considérable. Ben oui, les transhumanistes, ils se reconnaissent souvent au fait qu'ils sont ultra-libéraux, ils sont dans un libéralisme exacerbé aujourd'hui, et ils sont même souvent libertariens. Un libertarien, ça veut dire qu'ils veulent qu'on minimise de plus en plus la part des États, hein, pour déborder précisément les gouvernances nationales enfermées dans des frontières. Hein, et ils rêvent d'une société, c'est beaucoup dire, plutôt d'individus, hein, qui pourraient être déliés de toutes les contraintes économique et social, et il rêve de promouvoir une figure de l'individualisme exacerbé, parce que les sciences et les techniques, elles vont concerner avant tout les individus et peu les groupes sociaux. Il n'y a jamais qu'en France où il y a une association française du transhumanisme qui, elle, milite pour que les technologies puissent servir la cause de l'égalisation des conditions, l'égalité par conséquent. Mais ces transhumanistes français sont très, très marginaux. Dernier mot que je dirais, je considère que ce qu'ont en commun les transhumanistes, c'est que ce sont des dépressifs. Ils sont éminemment dépressifs, ils n'aiment pas l'humain, ils n'aiment pas la fragilité humaine, ils n'aiment pas qu'on naisse comme ça par hasard, ils veulent qu'on fabrique l'humain, ils n'aiment pas, évidemment, que nous soyons des êtres malades, et ils s'imaginent pouvoir mettre en œuvre tous les instruments susceptibles de réparer l'humain. Ils n'aiment pas que nous soyons des êtres vieillissants, et ils veulent supprimer évidemment le vieillissement, pas simplement les manifestations du vieillissement, mais également les mécanismes du vieillissement. Et puis ils n'aiment pas que nous soyons des êtres mortels, puisqu'ils veulent nous rendre immortels. Donc en gros, je considère qu'ils ont tous en commun cette espèce de dépression fondamentale qui se manifeste par une fatigue d'être soi et par une désaffection complète pour les valeurs de l'humain. Voilà, c'est peut-être de tout cela que nous discuterons tout à l'heure.
Monsieur Brun.
Merci. Alors, à la différence de Jean-Michel, j'ai peu travaillé sur le transhumanisme. Ma spécialité, c'est la philosophie des sciences, et donc c'est plutôt par ce biais-là que je suis rentré en contact avec les travaux transhumanistes. Et la première chose, moi, qui m'a frappé, et qui continue à me frapper, c'est le hiatus qu'il y a entre un discours... Vous excuserez ma voix, je suis presque aphone, donc je vais essayer de... la préserver. Le hiatus qu'il y a entre un discours fondé sur une promesse scientiste très marquée, qu'a rappelé Jean-Michel à l'instant, de réalisation, de transformation de l'humain et de réalisation effectivement de toutes ses aspirations à l'idéalisation des capacités ou à l'augmentation des capacités humaines individuelles, au détriment peut-être effectivement d'une pensée du collectif, de la société, d'une certaine forme, alors j'aime pas trop l'expression, mais de vivre ensemble, puisque c'est un peu à la mode, mais sacrifions à la mode. L'idée étant que nous aurions une nature non seulement perfectible, mais dont la définition même serait d'être dans le perfectionnement permanent. Et donc la réalisation de cette perfectibilité passerait par les sciences et techniques. Et une des difficultés immédiates que l'on rencontre lorsque on est, comme je le suis, attentif aux contraintes épistémologiques qui pèse sur la construction des savoirs scientifiques, c'est précisément le fait que la plupart des promesses sont extrêmement difficiles à tenir, non seulement immédiatement, mais même à moyen, voire long terme. Ce qui n'empêche pas, et c'est là où je rejoins Jean-Michel, qu'il faille avoir, à l'égard des discours transhumanistes, un regard extrêmement sérieux et les prendre au sérieux. Parce que quand on fait ce genre de promesses-là, quand on utilise ce genre de prophéties qui peuvent devenir autoréalisatrices, il est nécessaire d'avoir effectivement un certain regard sur elles, critique, pour essayer d'anticiper, sinon les difficultés posées, du moins essayer de mettre en évidence les mécanismes internes au discours qui viennent promouvoir finalement un projet social auquel on est convié d'une certaine manière d'acquiescer presque naturellement, précisément au nom de la perfectibilité de notre nature. C'est-à-dire que parce que c'est dans notre nature de nous perfectionner, il faudrait que nous soyons immédiatement enthousiastes à l'égard de ce perfectionnement. Je crois que c'est très important de maintenir une distance critique à l'égard de ce regard, à l'égard de ce discours. D'abord, du point de vue, comme l'a dit Jean-Michel, anthropologique, du projet même que cela porte pour l'humain, mais également du point de vue épistémologique, parce qu'un des risques pour tous ceux qui ont à l'égard du discours scientifique un certain amour, osons le terme, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que précisément parce qu'ils utilisent et instrumentalisent un certain type de discours scientifique, il ne faudrait pas jeter avec le transhumanisme les outils qu'ils se proposent d'utiliser pour ce projet de perfectibilité. Donc, à mon sens, c'est vraiment dans ce premier sens-là que j'entre dans le transhumanisme. Et petit à petit, en découvrant les textes d'un certain nombre de transhumanistes, et aussi en ayant un regard sur ce que Jean-Michel a rappelé, c'est-à-dire les liens très forts qu'il y a entre ces deux sources. Alors, la gnose, c'est vraiment Jean-Michel qui a attiré l'attention le premier, à ma connaissance, sur cette filiation-là. Et la filiation, effectivement, de la contre-culture américaine, qui est un peu plus évidente et qui a été beaucoup plus travaillée, y compris aux États-Unis. Il y a une tension intrinsèque entre ces deux sources qui se révèle dans la transformation progressive du projet politique et idéologique qui est porté par le transhumanisme. Et c'est ce point-là qui m'intéresse, parce qu'au fond, tout le monde voit bien que la contre-culture américaine s'est fondée sur un projet de réalisation individuelle. Chacun doit se libérer des pressions sociales de cette société pesante, structurée par des rapports de pouvoir qu'il s'agit de mettre en question, qu'il s'agit de critiquer et contre lesquels il s'agit de mener une révolution, mais qui est essentiellement individuelle et individualiste. C'est la réalisation de nos aspirations personnelles qu'il s'agit de mettre en œuvre. Ça passe effectivement par une révolution spirituelle, ça passe éventuellement par la construction de réflexions collectives et de mouvements collectifs. On l'a vu historiquement dans les années 60, les mouvements pour les droits civiques, 68, Jean-Michel l'a rappelé, etc. Bon, aucun problème là-dessus. La grosse difficulté, c'est que ce projet qui est totalement continu avec le courant libéral classique et ultra-libéral, voire néolibéral, si on pense aux ordolibéraux allemands, par exemple, où on est en train de penser à une entreprise de soi, je suis entrepreneur de ma propre vie, je me construis, ce que Michel Foucault appelle le biopolitique, finalement, la manière dont je me construis comme un sujet individuel, mais en ce sens, je réponds aussi à un projet politique qui est d'assurer une certaine maîtrise social, un certain ordre de pouvoir. Je ne reviens pas dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que, dans le même temps, ce discours transhumaniste conduit à un effacement de l'individu. Un effacement de l'individu dans la personnalisation de cet individu. C'est très paradoxal et je crois que ça mérite qu'on s'y attache un petit peu. Pensez, par exemple, à la promesse de médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est que cette médecine personnalisée? Ça veut dire qu'on va, en fonction de vos propriétés génétique, propre, vraiment, dans tout ce qu'elles ont de plus intime, dans votre mode de vie, identifier les facteurs, les causalités, les chaînes causales qui expliquent et donc permettent éventuellement d'agir sur les pathologies qui vous atteignent. Et donc, votre traitement à M. X ne sera pas le traitement de Mme Y, puisqu'il sera déterminé de manière totalement personnelle. Mais pour parvenir à ça, qu'est-ce qu'on a besoin de développer ? On a besoin de développer des outils qui vont dépersonnaliser complètement, c'est-à-dire qui vont construire des modèles algorithmiques qui vont identifier chez chacun d'entre vous les différentes variables qui vous construisent non pas comme un individu singulier, mais comme un ensemble de variables qui sont toutes identiques chez chacun d'entre nous, et vous entrez finalement dans une énorme machine à analyser des comportements, à analyser des données génétiques, à analyser des données éventuellement environnementales, de vos rapports complexes entre vous, individus, et votre environnement. Pensez à la manière dont, puisqu'on parlait des GAFA, Facebook cible, ou Amazon cible, la publicité qu'ils vous livrent lorsque vous êtes en train de surfer sur leur site. Finalement, cette personnalisation de la publicité, c'est exactement le pendant de cette médecine personnalisée, de cette réalisation individuelle parfaite. Mais en même temps, elle est totalement désincarnée. C'est un individu qui n'a plus rien de réellement structurant du point de vue d'un projet personnel, d'un projet individuel que l'on porterait, d'aspiration qui serait liée à une idée, à une histoire personnelle. Autrement dit, il y a là une tension qui me semble vraiment très importante à creuser, qui est cette tension entre, d'un côté, un projet qui est parfaitement structuré comme une continuation, et peut-être une rupture, c'est peut-être là où nous nous distinguons un petit peu avec Jean-Michel, du projet libéral, classique et ultra-libéral dont on a parlé tout à l'heure, qui trouve une de ses formes dans la contre-culture américaine. On va pousser cette personnalisation, cette individualisation à son extrémité. Mais ce faisant, les outils qu'on utilise conduisent à dissoudre en même temps cette individualité dans un tout indistinct. Et nous ne devenons plus intéressants en tant que personnes, mais en tant que nous participons à un marché global sur lequel vous êtes une variable parmi des milliards d'autres. En ce sens, la réalisation de ce projet transhumaniste d'amélioration, d'augmentation, alors amélioration, j'utiliserai le terme avec beaucoup de précaution, je préfère le terme d'augmentation parce que est-ce que toute augmentation est une amélioration ? Ça demanderait à être justifié. Mais en tout cas, d'augmentation de nos capacités, de réalisation de nos aspirations par les sciences et techniques, conduit à la dissolution de l'individu, cet individu moderne, ce sujet moderne, depuis Descartes jusqu'à Adam Smith, d'une certaine manière, qui fonde, d'une certaine manière, nos sociétés. En ce sens, le projet politique demande à être interrogé, non seulement eu égard au cadre de pensée que nous avons eu, que nous avons développé depuis la période moderne, mais sans doute demande de repenser ces cadres d'une manière différente. Pensez par exemple à la manière dont des outils techniques qui nous servent par exemple à mesurer ou déterminer les consommations électriques de fluides dans nos grands bâtiments collectifs comme une université, une entreprise, etc., sont à la fois des outils fantastiques pour lutter contre la surconsommation et faire du mieux-disant environnemental, et en même temps des outils de contrôle sur nos présences dans ces locaux, sur nos pratiques dans ces locaux, puisqu'on sait à chaque instant qui fait quoi sur le réseau interne de l'entreprise, qui est présent dans et combien nous sommes présents dans une pièce, puisqu'on peut corréler le nombre de personnes présentes dans cette pièce avec, par exemple, le taux de CO2 rejeté dans cet air. Donc, dans ce cadre-là, nous devenons simplement des variables qui servent à gérer des flux, et en tant qu'individu, notre réalisation devient totalement secondaire. Donc il y a quelque chose de profondément paradoxal dans ce projet, et ce paradoxe me semble devoir être aperçu d'abord peut-être par les scientifiques eux-mêmes. Je crois que les scientifiques ont aujourd'hui une responsabilité historique dans leur rapport à cette utilisation de leurs travaux, qu'ils soient fondamentaux, qu'ils soient plus appliqués, techniques, etc. C'est quelque chose qui a été travaillé, par exemple, par des personnes comme Anders ou Jonas, au sujet du rapport à l'environnement et au sujet du rapport à la, à la, au nucléaire, à la bombe, notamment à la bombe A. Je crois qu'aujourd'hui, cette question doit être posée sur l'ensemble de ce qu'on appelle désormais la convergence technoscientifique entre les nano, bio, informatico, cognito, etc., technologie. Donc je crois qu'on est sur ce point-là où il va falloir réfléchir collectivement, et c'est pour ça que je trouve ça très heureux, cette soirée-là, et les soirées qui ont précédé et qui vont suivre, où l'ensemble de la société puisse se saisir de sujets qui ne doivent pas rester dans le précaré d'un certain nombre d'experts, ou de lanceurs d'alerte, ou de spécialistes de la question, précisément parce que ces enjeux vont nous concerner, et nous concernent déjà, collectivement et individuellement, de manière très très aiguë.
Merci Monsieur Brun. Vous avez choisi pour illustrer vos propos de nous parler de la communication brain to brain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui. Alors, donc c'est un travail qui a été réalisé. Alors il y a deux directions dans cette étude. C'est un travail qui a été réalisé à l'Université de Washington, à Seattle, aux États-Unis, qui a donné lieu à une publication dans une revue scientifique importante, PLOS ONE, en octobre ou novembre 2014, si mes souvenirs sont bons, ou août 2014. Et donc, qui consiste à faire communiquer deux cerveaux, entre guillemets, directement. Alors, on avait l'habitude de la communication entre deux cerveaux qui était médiée par le langage. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire à l'instant. D'ailleurs, pas seulement deux cerveaux, mais un cerveau, multiplicité de cerveaux, par le langage, qu'il s'agisse d'un langage articulé comme celui que je suis en train d'énoncer, mais aussi notre langage corporel, des codes qui sont plus ou moins explicites, plus ou moins implicites, qu'on a l'habitude de décoder justement par nos pratiques sociales. Bon, ça, on sait faire. On sait faire de la propagande, on sait faire de la manipulation mentale grâce à ces vieux outils, et c'est pas nouveau. Je veux dire, la rhétorique d'Aristote, hein, elle sert à ça. Bon. Et là, ce qui nous est promis, c'est que directement, sans la médiation du langage, on va pouvoir communiquer une information d'un cerveau à un autre. C'est le terme même, hein, le titre même de l'article. Direct brain-to-brain communication in humans. Alors moi, en tant que philosophe des sciences et des neurosciences en particulier, je me suis tout de suite interrogé, est-ce que c'est vraiment direct ? Ça veut dire quoi, direct, ici ? Est-ce que c'est médié ? Est-ce que c'est pas médié ? Est-ce qu'il n'y a pas une emphase encore propre à la big science ou à la science transhumaniste qu'il faudrait tout de suite identifier. Bon, bien évidemment, ce n'est pas si direct que ça. Donc l'idée, c'est simplement d'identifier le message moteur dans le cortex moteur d'un émetteur. Ça, on va le faire par un bonnet d'électroencéphalogramme. On va traiter ce signal dans un ordinateur. Et ce signal va être transformé en un nouveau signal qui va passer par une autre machine qu'on appelle un stimulateur magnétique transcrânien, donc un très fort champ magnétique qui va venir stimuler des zones du cortex moteur du récepteur, donc on n'est plus chez le même sujet, d'accord, et qui va donc agir sur ces terminaisons nerveuses périphériques et, en l'occurrence, lui faire bouger une main. L'émetteur voit l'image, le récepteur ne la voit pas. Alors, au hasard, hein, il s'agit d'un missile qui menace une ville. Au hasard. Et donc, l'émetteur doit penser ou réaliser mentalement, c'est pas très clair, le mouvement d'appuyer sur une barre espace d'ordinateur, hein, pour envoyer un antimissile qui va venir détruire le missile et ainsi protéger la ville. Mais bien sûr, il n'a pas d'ordinateur devant lui, l'ordinateur est devant le récepteur. Et donc, par le truchement de ce mécanisme, bien heureusement, le récepteur va pouvoir sauver le monde. Je vais quand même vous lire deux éléments rapide de la conclusion de l'article. L'avantage de la revue PLOS ONE, c'est qu'elle est entièrement libre d'accès en ligne. Donc vous pouvez retrouver assez facilement l'article. Donc dans l'introduction, les auteurs expliquent le cadre dans lequel ils réfléchissent et ils disent « ce serait quand même fantastique si on pouvait communiquer en se passant du langage ». Parce que grâce à ça, on pourrait communiquer des choses qu'on ne sait pas communiquer. Je ne peux pas vous communiquer, si je suis un violoniste, par exemple, le bon emplacement des doigts sur mon violon pour jouer un morceau de violon. Mais si je pouvais vous le transférer directement de mon cerveau à votre cerveau, ce serait fantastique. Si je suis un chirurgien expérimenté et que je peux transférer comme ça un message moteur directement dans votre cerveau et donc renforcer par ce transfert votre apprentissage de jeune chirurgien, vous apprendriez beaucoup plus vite la chirurgie. Bien, alors, je passe bien sûr sur les promesses de transmission de concepts ou d'émotions, puisqu'ils vont jusque-là. Tout de suite, quand on connaît un petit peu le champ, on dit non, mais il y a une grande différence quand même entre identifier un message moteur cérébral et un concept. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les concepts sont construits du point de vue neurobiologique. On a des idées, on a des hypothèses, des grandes catégories, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc avant de savoir comment on va le transférer, ce serait peut-être pas idiot de savoir comment ça fonctionne réellement. Bon. Mais ici, l'idée va beaucoup plus loin, puisqu'ils disent ce qui serait fantastique, c'est que, enfin, ce qui est fantastique dans cette étude, nous disent leurs auteurs, c'est que demain, cette technologie va nous permettre de transférer une information d'un cerveau vers une multitude de cerveaux. On va enfin pouvoir vous enseigner des choses collectivement, directement, d'un cerveau à un autre. Alors, on est dans l'emphase, on est dans l'emphase propre à la big science, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça signifie du point de vue du projet anthropologique derrière? Qu'est-ce que ça signifie du point de vue du projet idéologique? Comment on évalue la mise en œuvre d'un tel projet du point de vue simplement démocratique? On est encore dans des sociétés ouvertes. On pourrait peut-être se déterminer librement en tant qu'individu, en tant que citoyen, sur la mise en œuvre de ces projets. Remarquez comment ces projets de recherche, là, ici, on pourrait faire référence à Lakatos, on pourrait faire référence à Feyerabend, à toute cette tradition de philosophie des sciences qui pose la question de la légitimation épistémique et politique des projets de recherche scientifique. Qui légitime ce projet de recherche? Est-ce que c'est en notre nom qu'on fait ça? Donc, je pose des questions, pour l'instant, je ne veux pas y répondre, parce que je pense que c'est important qu'on ouvre le débat là-dessus.
Allez-y.
Oui, moi j'apporterai volontiers un commentaire maintenant à cette à l'exposé de cette prouesse neuroscientifique, hein, donc communication de cerveau à cerveau. Je reprendrai ce que disait Cédric. Il y a effectivement derrière une espèce d'offensive contre l'humain, contre l'homme, puisque Cédric l'a bien dit, ce qu'il y a là derrière, c'est une méfiance à l'égard du langage. L'un des transhumanistes qui est à la clé de ces réalisations-là ou de ces préconisations-là s'appelle Kevin Warwick. C'est un cybernéticien qui travaille au Royaume-Uni. Il est très connu, quand vous tapez son nom sur Internet, vous avez immédiatement des sites qui le présentent comme le premier cyborg au monde. Ce monsieur s'appelle, enfin, se désigne lui-même comme le premier cyborg au monde, et il est connu pour se mettre régulièrement des puces sous la peau, avec des émetteurs récepteurs, d'ondes électromagnétiques, et que ces puces lui permettent effectivement de contrôler son environnement. Alors on le voit souvent dans des films traverser les couloirs de l'établissement de recherche dans lequel il travaille, et on voit les portes s'ouvrent, les fenêtres, les volets se lèvent, enfin bon, tout fonctionne autour de lui de manière automatique, et il a l'air parfaitement content. Ça lui plaît énormément. Donc, il a le sentiment d'avoir une maîtrise considérable sur les choses et sur les lieux. Et il est cyborg. Pourquoi ? Parce que dans son organisme, org, il a intégré de la cybernétique. Donc, il est bel et bien le résultat d'un couplage de machines, d'artefacts et de biologie. Et cet homme, vous l'entendez quelquefois tenir un propos assez intéressant. Il vous dit, par exemple, « Je suis persuadé que tous les maux de l'humanité tiennent au fait que nous parlons. Le langage est à la source de tous nos maux. Alors bon, jusqu'à présent, on se disait, ben, le langage, c'est le privilège des humains, c'est ce qui fait la grandeur de l'humanité. Toute notre culture est le résultat du langage, hein, de cette possibilité de dire ce qui n'est pas actuel. Nous pouvons rêver grâce aux mots, etc. Mais ce monsieur dit non. Non. Le langage, c'est la violence. Le langage, c'est ce qui permet de mentir. Le langage, c'est ce qui permet les malentendus. Songez que nous utilisons des mots qui signifient plusieurs choses. Et c'est effroyable pour lui. Moi, je pensais que la poésie, c'était bien, et que la poésie, c'était précisément ce qui permettait d'utiliser les mots et la polysémie des mots. Mais lui, il n'aime pas du tout ça. Il dit non, hein, il faut être dans un contexte où, comme disait Orwell dans 1984, il faut que les mots aient un sens et un seul sens. Hein. Donc, on veut la transparence, on veut la monosémie, etc. Mais il faut aller plus loin que ça, dit Kevin Warwick. Hein. Il faut se débarrasser du langage et essayer de rêver une société dans laquelle triompherait la télépathie. Hein. Et il a commencé déjà là-dessus. Hein. Donc, il a déjà mis des puces électroniques dans le cerveau de sa femme, hein, et il en a lui-même, hein, et il s'exerce à penser des choses, hein, qui vont se traduire en circuit neuronal, synaptique, hein, et ces choses devraient transiter via des ondes électromagnétiques jusqu'au cerveau de sa femme, hein, et sa femme doit recevoir les ordres et les injonctions traduites par ces circuits neuronaux. Donc il lui suffit, il ne va pas dire « chérie, passe-moi le sel », hein, il va penser très fort « chérie, passe-moi le sel », et comme dans le film là, ça va se transférer dans le cerveau de sa femme qui... obéira, hein, à l'injonction, enfin peut-être, en tout cas. Il n'y a pas lieu de discuter, puisqu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de langage, on n'est pas dans un... On est dans un monde où il n'y a plus de signes, il n'y a plus que des signaux, hein, des signaux, et les signaux, ils appellent des réactions comportementales, hein, et on est dans un monde de l'injonction, et non plus dans un monde de la discussion ou de la délibération. Donc c'est ça qu'il y a derrière, cette espèce de rêve que tous les transhumanistes partagent, hein, de se débarrasser du langage, parce qu'en se débarrassant du langage, on va être dans l'immédiateté. Vous voyez bien, le langage, c'est toujours, hein, quand on commence à discuter, regarder sur un marché si on va commencer à marchander, etc. On est bon. Ben non, là maintenant, avec les technologies, on doit être dans l'immédiateté. Dans la réactivité, hein. On doit être dans le temps réel. Bon, c'est tout ça qu'il y a derrière ce fantasme transhumaniste. Et dans l'agenda des transhumanistes, il y a effectivement comme nerf central du bonheur supposé des humains, hein, la réalisation, hein, de la communication cerveau à cerveau, comme il y a le rêve de la pensée intégrale, comme ils appellent. C'est le jour où on pourra vous mettre Internet directement dans le cerveau. Hein. Il quittera votre smartphone, hein, et il se présentera sous la forme d'un implant intracérébral que vous aurez directement dans votre cerveau. Et là aussi, vous serez dans une situation où vous aurez réalisé l'immédiateté. On aura supprimé la médiation. Déjà, la petite médiation qui est déjà limitée lorsqu'on est addict à son smartphone. Hein, mais là, vous serez dans l'immédiation. Donc, je crois que c'est important de bien voir que derrière ce fantasme, bien représenté par ce petit film, derrière ce fantasme, il y a à peu près tout l'esprit, si je puis dire, du transhumanisme. Il y a cette volonté de maîtrise absolue, puisque là, ce petit film que vous avez vu qu'il y avait aussi l'ambition de commander la volonté à distance. Hein, là, il s'agit bien pour un individu de prendre le pouvoir sur le cerveau d'un autre individu, hein, et de lui imposer par conséquent un geste. Ça intéresse beaucoup les militaires, vous vous en rendez bien compte, ce genre de choses. Si je dis ça précisément, c'est parce qu'il ne faut pas non plus être intégralement négatif. Ce dispositif-là est un dispositif formidable pour les tétraplégiques. Hein, un tétraplégique, comme on cherche à en soigner à Grenoble au Clinatec, qui n'est plus capable de qui est quasiment végétatif, hein, si sa simple pensée lui permet d'actionner le bras d'un ordinateur qui va ouvrir des portes, allumer une télévision, déplacer une souris sur un ordinateur, on aura fait des choses formidables. Hein, mais vous voyez bien que la même technologie, elle peut servir aussi à des militaires qui voudraient pouvoir s'emparer du cerveau, hein, de l'ennemi, ou pourquoi pas du cerveau de ceux qui doivent agir. Hein, et c'est pour ça que Cédric avait raison de souligner le fait que l'exemple du petit jeu qui était pris, c'était bel et bien un missile, et il fallait faire en sorte que de faire actionner par un individu de manière automatique, puisqu'il n'y a pas eu de réflexion de sa part, une commande de mise à feu. Donc derrière tout cela aussi, il y a l'ambition de supprimer le libre arbitre chez les individus que nous sommes. Ça, c'est une obsession, hein, de bon nombre de transhumanistes. Faire en sorte que nous n'ayons plus cette espèce de négociation avec nous-mêmes, hein, qui s'appelle la réflexion, qui s'appelle le dialogue avec soi-même, hein, qui s'appelle la pensée, tout simplement. Hein. Supprimer cela, hein, et faire en sorte que nous soyons toujours effectivement dans la réactivité. Donc je crois que c'est important. Haine de la médiation, haine de la réflexion, haine du langage, hein, tout ça caractérise quand même d'assez près les monstruosités que bon nombre de transhumanistes sont capables aujourd'hui de nous présenter comme la clé même de notre bonheur.
Merci Monsieur Beignet, et merci à vous d'être venus si nombreux.